Depuis 12 ans, il existe à Châtillon-Saint-Jean un salon littéraire jeunesse. Un salon qui vous fait la promesse de l'ivresse, livre jeunesse avec un apostrophe. Cette année, il a eu lieu exceptionnellement à Triors du 27 mars au 1er avril. Pendant 5 jours, rencontres, dédicaces, ateliers, spectacles et animations se sont enchaînés avec un rythme trépidant. Radio Royan a couvert la dernière journée de ce salon. Nous vous embarquons dans notre voyage, entre les allées, à la rencontre des auteurs, de leur enthousiasme, de leur militantisme aussi. Les grandes conversations, c'est tout au fond du bocal, sous la yourte. Lisa Bienvenue et son association Plume de Brigand accueillent auteurs et organisateurs. Un moment intimiste pour croiser les points de vue et les expériences sur des thématiques transversales. Deuxième grande conversation avec Lionel Le Néouanic et Pierre-Yves Tarabello. Il est question d'humour et de censure.
Bonjour, bonjour, on est à la radio avec Lionel Le Néouanic et Pierre-Yves Tarabello.
Bonjour.
Bonjour.
Et on va discuter d'humour et de censure. On va faire une non-discussion puisqu'on va se censurer, donc on ne parle pas. Donc pendant une demi-heure, il va y avoir du silence.
Superbe.
Chouette émission.
Si on vous a réunis tous les deux, c'est pour parler de ce sujet qui est quand même assez brûlant d'actualité, je trouve. En tout cas, c'est important de parler de censure et d'humour aujourd'hui. C'est parce que j'ai trouvé que dans ton travail, Lionel, il y avait quand même une constante irrévérencieuse pour parler des choses de la vie. Et Pierre-Yves, ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est un jour tu m'as raconté une anecdote sur un discours que tu as fait sur une inauguration qui a été repris dans un journal dont on ne taira pas le nom, puisque tu vas nous le dire, à propos d'une subvention que tu avais annoncé avoir reçue. C'était une espèce de poisson énorme que les journalistes ont cru. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, Pierre-Yves ?
Ben, je crois que c'était l'année dernière, en fait. J'avais un discours qui mettait en avant l'album de François Place, Les Derniers Géants, qui avait été un peu un album qui nous avait servi de référence pour tout le salon. Et donc, je disais tout simplement géant, pas géant. Pas géant, le fait que, par exemple, aucune inspectrice d'académie ne soit venue à une inauguration en 11 ans de salon. Ben, on peut rajouter 12 maintenant, cette année. Et donc, bon, pour faire un peu d'humour, effectivement, j'ai dit que ce qui était géant, c'est la région, le département de la Drôme, et puis je ne sais plus quel organisme, avait accepté de signer une charte qui nous liait pour 5 ans et qui nous autorisait, enfin qui nous allouait une très grosse subvention. Et la journaliste qui était présente, elle ne me connaissait pas, elle n'a pas vu que je disais une bêtise. Et le lendemain, c'était dans le journal.
Est-ce que tu peux nous dire le nom du journal ? Parce que si on parle d'humour et de censure et qu'on censure certains journaux, moi je trouve que quelque part c'est embêtant.
Ça s'appelle le Dauphiné Libéré.
D'accord.
Mais le correspondant du Dauphiné Libéré de l'époque, Emilio Martinez, qui était le seul correspondant de presse qui prenait une semaine sur ses vacances pour couvrir un salon comme le nôtre, a habilement joué dans une espèce d'article le lendemain ou le surlendemain sur le fait qu'il ne fallait pas toujours croire ce qu'on disait, etc. Quoi. Voilà.
Alors si j'ai voulu que tu nous racontes cette anecdote, c'est parce que, en dehors du fait que quand même c'est très très drôle, je trouve que c'est horriblement affreux d'arriver à se dire que des journalistes sont capables de croire ce genre de choses. Il y a un décalage monstrueux entre l'information, en fait, et la manière dont les gens peuvent la percevoir. Et voilà, moi, ça me pose question. Et je pense que c'est une forme d'éducation d'esprit, en fait, l'humour, un comportement, une attitude. Et je voulais savoir comment vous le cultivez dans votre travail, dans vos métiers. Donc toi, Lionel, à travers ton travail d'auteur et d'illustrateur, et puis d'artiste. Et toi, Pierre-Yves, à travers ton métier d'enseignant. Donc tous les deux, en fait, avec peut-être une part de responsabilité vis-à-vis des enfants et des adultes, de l'enfance et de l'adulte, en fait.
Je crois que l'humour aussi, ça s'éduque, oui, d'une certaine manière, quoi. Je pense qu'on peut dire des choses même très, très sérieuses, voire graves, avec humour, et je pense que même, en fait, ça passe mieux. Enfin, les questions se posent plus facilement quand ils sont dans un cadre plutôt humoristique que dans un cadre tout à fait sérieux, quoi. Enfin, comment dire, sage, quoi. Enfin, je crois qu'on peut dire des choses, enfin, beaucoup de choses avec humour, et ça passe bien, pour, y compris pour les enfants. Même si, effectivement, les enfants, c'est... Enfin, on dit qu'ils reçoivent tout au premier degré, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut, il faut élargir, ouvrir ce point de vue, quoi, et essayer de les faire avancer de ce point de vue-là. Je veux dire, comprendre aussi le second degré, et, enfin, de plus en plus, quoi.
Est-ce que tu as une anecdote à nous donner autour d'un livre, en fait, qui en parle ou qui pourrait parler de sujets qui fâchent? Je pense au livre peut-être Patate.
Ah, il y a Patate, oui. Ouais. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas eu, il n'y a pas eu de problème avec Patate, mais j'imagine que ça pourrait en donner, oui. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, enfin, que de toute façon, l'humour fait partie de la vie et que de tous les jours, quoi. Et j'entends pas du tout me censurer de ce point de vue-là, quoi. Enfin,
est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que raconte l'histoire de Patate et les noms des personnages?
Je ne m'en souviens même pas trop des noms des personnages. Le livre est sorti en 2002. 2002, ah oui. C'était une année assez fameuse, quoi, pour de ce point de vue-là. Oui. C'était un hasard total. Hein. Enfin, c'était quand même dans l'air ambiant. Tout, enfin, Patate, question d'une famille de pommes de terre qui s'appelle les Belles de Fontenay. Et Marie Belle de Fontenay, la petite fille Patate, tombe amoureuse d'une patate douce qui vient d'arriver dans leur pays, sur leur terre, on va dire. Et voilà, les parents Belle de Fontenay sont racistes et refusent l'arrivée des patates douces sur leur terre. Et donc elles organisent une manifestation contre l'arrivée des patates douces. Venu d'outre-mer, quoi. Et voilà, enfin, le livre se résout très, très rapidement, on va dire un peu trop rapidement à mon goût, d'ailleurs. Je pense que la fin est un peu trop rapide. A posteriori, j'aurais bien corrigé certaines choses, mais ça se résout dans la musique, d'ailleurs. Enfin, et voilà, tout va bien pour finir. Mais c'est effectivement une charge contre le racisme, enfin, c'est clair, quoi. C'est archi-clair, et voire même un peu trop appuyé contre, je dirais, politiquement, contre le... Un peu trop. Enfin, oui, contre le... Trop clairement, je dirais, contre le Front National, quoi. Puisque c'est même cité, enfin, indirectement, avec humour, justement, là. Ce qui est bien avec l'humour, c'est que vraiment, on peut... C'est très créatif, l'humour, quoi. Enfin, c'est un champ de... Un terrain de jeu immense où on peut vraiment dire beaucoup de choses et s'amuser beaucoup, quoi. Et c'est pourquoi je me permets de m'amuser dans ce terrain de jeu, quoi, aussi.
J'ai choisi ce livre Patate, même si son année d'édition est un peu ancienne par rapport à 2017, parce que quand même il fait drôlement écho à l'actualité.
Ben malheureusement, oui, voilà. Toujours.
Beaucoup, beaucoup aujourd'hui.
De plus en plus.
De plus en plus aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a frappé, ouais, pour le coup.
Ouais. Alors je pense justement aux mairies, j'ai pensé plusieurs fois. Je me demande s'il est dans les mairies, je n'imagine que non, dans les mairies dirigées par des maires frontistes. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais ça, oui, c'est assez flippant tout ça. Quoi, ouais.
Après, l'autre question, c'est est-ce que les maires lisent les livres qui sont dans leur bibliothèque?
Oui, ça, c'est pas gagné non plus. Ouais.
Pierre-Yves, tu m'avais interpellé sur les listes de l'éducation nationale. Tu demandais, en fait, si les prescriptions qui étaient faites n'étaient pas une forme de censure, en fait, quelque part.
Alors, moi, ces listes, je les ai toujours lues. Et puis, je crois que ça en est resté là. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand un ministère résume la littérature de jeunesse à une liste de 20 titres pour un cycle, de 20 autres titres pour un autre cycle, et, etc., ben, je pense qu'on passe à côté de tout le reste, quoi. Et par esprit, mais aussi parce que j'ai envie d'élargir un maximum l'univers, j'ai jamais vraiment utilisé les listes de l'éducation nationale, quoi. Donc pour moi, c'est même une contre-publicité qu'un livre soit dans une liste dans une liste éducation nationale. Après, il y en a sûrement de très très bien, hein, mais il me semble qu'on a quand même suffisamment de possibilités en rencontrant les libraires, en se renseignant, etc., pour choisir des livres qui correspondent à ce qu'on a envie de travailler en classe, quoi. Voilà.
Et avec ta position d'enseignant, qui a de la bouteille, beaucoup de bouteilles maintenant. Mmh. Moi, je voulais dire que j'étais très contente de vous avoir tous les deux sur ce sujet.
Et
tous les deux,
moi,
sur les bouteilles aussi. Moi, mais ça, on verra après le salon, peut-être. Parce que je crois, enfin voilà, vous avez une histoire tous les deux aussi autour de ce salon, une complicité d'esprit aussi, je crois. C'est pour moi, c'est aussi ça en fait la base de l'humour, c'est la complicité, le non-dit, oui. comment tu fais passer ça toi avec tes mômes en fait en classe? Est-ce que tu pratiques? Comment tu fais?
Alors, je me censure par moments aussi, parce que je me dis, non, allez, ça ne le dit pas, ou... Et bon, je ne dis pas toujours tout. Après, je crois que les enfants, on ne peut pas les tromper. Ils savent quand. Ils arrivent très facilement à savoir quand je ne suis pas sérieux. Et c'est très, 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 très rare de les surprendre, quoi. Donc oui, l'humour, on l'utilise beaucoup en classe. C'est aussi, utiliser l'humour en classe peut être aussi un gage d'une bonne ambiance dans la classe. Hein. Et quand on peut se permettre de faire de l'humour avec ses élèves et accepter aussi qu'eux, ils en fassent avec nous, ça prouve peut-être qu'il y a une certaine relation. Quoi, hein, voilà. Après... maintenant, ils me connaissent et ils arrivent à voir... peut-être à mes yeux, ou à je sais pas quoi, que je vais peut-être pas être sérieux. Quoi. Donc je suis démasqué.
Ça veut dire qu'il y a des... ça veut dire quelque part, il y a des codes, en fait.
Ah oui, il y a des codes. Forcément, il y a des codes. Voilà. Il y a des codes dans les positions, ouais. Dans la gestuelle, dans plein de choses. Moi, j'ai les miens, eux, ils ont les leurs. Et ouais. C'est aussi une lecture de codes et une compréhension de ces codes-là qui fait que on passe du temps ensemble quand même sur une année scolaire. Hein, donc voilà, quoi.
Vous écoutez Radio Royan, nous sommes au Salon littéraire Livre Jeunesse à Trieure. C'était le 1er avril 2017.
Est-ce que ça fonctionne aussi ce genre de code dans tes livres? Est-ce qu'il y a une évolution en fait dans ton travail entre le tout début et maintenant, où tu peux te permettre plus de choses maintenant parce que tu sens qu'il y a une autre compréhension de ton travail ou pas? Ou tu as toujours fait, c'est comme ça, je fais.
Voilà, moi, oui, plutôt comme ça, oui. Mais je tiens tout de même à conserver garder mes prérogatives, quoi, de créateur, justement. Il y a des choses qu'on m'a demandé de calmer ou de toutes ces années de travail, là, d'écriture ou de surtout dans l'image d'ailleurs, on m'a demandé de corriger ou etc. Oui, de revoir ça, mais je tiens beaucoup à garder, par exemple de faire un personnage à poil, quoi, ça passe pas ou difficilement, et ça passe pas surtout du point de vue commercial, je dirais, c'est même pas tellement du point de vue moral, quoi. Et donc c'est gênant. Enfin moi j'y tiens beaucoup à conserver cette capacité de dire, quoi, enfin d'exprimer, y compris en faisant des personnages, enfin justement de, enfin moi je, enfin voilà moi en fait je, j'ai l'impression de travailler sur la vie, quoi, enfin toute simplicité, je veux dire, de la vie de tous les jours, enfin, je crois pas être plus que ça provocateur ou quoi, je pose des questions, quoi, avec humour autant que possible. Puis ouais, enfin voilà, j'avance comme ça, quoi. Mais par contre, j'aime pas du tout être renfermé, oui. Et a priori, je ne me renferme pas. Si je me censure, c'est uniquement dans la forme, quoi, dans le dessin lui-même, dans la création elle-même. Je veux dire, je doute beaucoup de ce point de vue-là. Ça, je recommence sans arrêt. J'ai du mal à faire ce que je veux, à aboutir à ce que je veux. Mais sinon, du point de vue du sens, là, non, je tiens beaucoup à conserver mes, les possibilités de création, qui sont assez grandes, c'est, enfin, je veux dire, comme tous les gens qui créent, quoi.
Donc les arguments en fait, que te posent les éditeurs, c'est les arguments commerciaux uniquement?
Oui, ou... plutôt, oui, oui, ouais. Oui.
Et le poids de la morale?
C'est devenu comme ça, parce ouais. que de plus en plus, parce que l'édition mmh. est devenue plus commerciale aussi. Quoi. Oui. Maintenant, on a affaire, enfin, je ne vais pas généraliser, mais j'ai entendu quand même des propos assez significatifs de ce point de vue-là. Quoi. Ce sont beaucoup les commerciaux qui, finalement, éditent le livre, je veux dire. Hein, parce qu'il faut que ça soit, faut que ça marche, quoi. Et la durée de vie d'un livre, c'est très court, finalement, maintenant, en librairie, en vitrine, disons. Donc il faut que ça marche tout de suite, très vite, quoi. Et il faut faire les choses pour. Donc ça marche pas pour moi, en tout cas. J'ai du mal avec ça, quoi. Enfin, j'y pense même pas,
ouais, je veux dire. Mais t'arrives toujours, en fait, à...
De toute façon, je fais un livre tous les 5 ans, à peu près, donc... Enfin, en gros, quoi. Là, je suis en train de faire un livre sur la musique, et ça fait 5 ans que j'y travaille. Je ne m'imagine pas me restreindre en quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, dans la mesure du respect, évidemment, dans la mesure où je respecte les enfants en particulier, les gens en général, quoi. Évidemment.
Tu veux réagir, Pierre-Yves, sur le respect des enfants?
Oui, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. On ne peut pas les tromper, quoi. Donc, c'est vraiment important d'être sincère avec eux. Les écrits, les plus, enfin, qui marchent le plus à l'école, c'est ceux qui expriment tout un tas d'histoires, mais qui aussi font référence à leur propre vie, etc. Et puis, je crois que... Ben, moi, dans ma classe, hein, ils ont déjà 6-7 ans derrière eux. Pour ceux qui sont à Châtillon, ils ont 6-7 ans de salon de livre. Et c'est vrai qu'ils ont déjà un esprit de lecteur qui est développé pour la plupart et qui est intéressant, quoi. Moi, je reviens un petit peu sur ce que dit Lionel. Là, c'est vrai que... je sais pas, hein, je prétends pas avoir des connaissances énormes en littérature jeunesse, mais est-ce qu'on va pas vers une forme un peu aseptisée de l'écrit? Je prendrai un tout petit exemple. Il y a 2 ans, on avait Yael Hassan et on avait lu Momo, Prince des Bleuets. Et on avait 2 éditions différentes. Et un jour, j'avais une édition en main et les gamins en avaient une autre. Et je leur lisais mon texte, et eux n'avaient pas le même texte, parce que c'était une réédition. Alors, le franc était devenu l'euro, ça se comprend. Le mammouth, c'était devenu l'hypermarché, ça se comprend aussi, le mot mammouth, il avait disparu. Mais par contre, quand Momo rentre très tard chez lui, qu'il loupe le repas de midi, son frère, dans la première édition, lui mettait une baffe, alors que là, il se contente de le gronder. Voilà, et ça, je vois pas pourquoi l'éditeur avait redemandé à Yael Hassan, c'était une demande de sa part, d'enlever la baffe et de le remplacer par une dispute, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça, et les gamins avaient été aussi choqués, aussi surpris, quoi. Bon.
Voilà. Mais oui, comme tu dis, moi, je pense que ça va aussi dans le sens d'une société de plus en plus lycée, où on appelle des aveugles, des malvoyants, des sourds, des malentendants, enfin... Des vieux, des personnes âgées, enfin c'est... Euphémisé, voilà. Hier, il y a eu un spectacle, une adaptation de L'Homme sans tête. Est-ce que tu as envie de nous en dire un tout petit mot, Lionel?
Un petit, oui, ma foi. C'est toujours un plaisir de... En fait, c'est la deuxième fois que je vois, non pas ce spectacle-là précisément, mais la deuxième fois que je vois un spectacle d'après L'Homme sans tête. Il y avait déjà une petite troupe toulousaine qui avait fait un spectacle avec L'Homme sans tête et qui était vraiment épatante, mais toute différente de celle que j'ai vue hier soir. Et c'est un grand plaisir de voir justement toutes les versions, enfin ces deux versions-là très différentes, et de voir à quel point on peut s'accaparer d'une création, quoi, et comme le livre là, et d'en faire d'aller même dans des directions que je soupçonnais pas moi-même et qui sont vraiment tout à fait intéressantes, vraiment chouettes, quoi. Moi, je ne vois pas autrement le fait des recréations, je veux dire, hein, c'est très très, c'est épatant de voir ça, de voir des nouvelles créations se faire. Moi, j'ai malheureusement eu un, à propos de censure justement, mais enfin c'est pas très drôle pour le coup. J'ai eu un mauvais vécu avec Le plus beau des cadeaux, qui c'était pour le coup pas un super cadeau, ni pour moi ni pour l'éditrice. J'ai travaillé à peu près 4 ans, 5 ans sur un livre qui s'appelle Le plus beau des cadeaux et qui était un hommage rendu, pour moi, à l'histoire de l'art et au monde de l'art. Je suis passionné par l'histoire de l'art et l'art en général, l'art contemporain. Et ce livre a été interdit par la DAGP, qui représente des familles d'auteurs, enfin de pas d'auteurs, de d'artistes. Tel Miro, Calder, etc. Et le livre a eu un mois de vie et a disparu de la circulation. Je ne sais pas pourquoi.
Et pour quelle raison ?
Mais parce que je spoliais visiblement, je copiais les artistes en question. Quoi. Alors pour, enfin,
ils n'ont pas vu ça comme un hommage, en fait, pas et comme tout, une transmission.
Non, ils ont vu ça comme une spoliation, comme un vol. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas les artistes, c'est la DAGP qui représente les artistes, ouais, qui m'a dit que j'étais un voleur. Soit un poète, un doux rêveur, quoi. Il fallait que je revienne sur Terre, c'est ce qu'on m'a dit. Soit un voleur, donc voilà, c'était... C'est super dur. C'était pas drôle. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est pas drôle du tout, en fait.
Bah non, mais c'est un sujet en même temps.
Moi, j'ai une petite anecdote.
Il me semble quand même.
J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. L'année où Lionel nous présente Le plus beau des cadeaux, il est invité au salon du livre et on mange dans le gîte qu'on occupait à l'époque à midi et il y avait Pef qui était présent.
Ah oui.
Je sais pas si tu te souviens. Et quand Lionel raconte son histoire, Pef a pris une colère folle. Il a pris son téléphone, il a appelé à l'insert de Rue du Monde en disant « J'ai vu un album, il est sensationnel et tout, et il va être mis au pilon, ce qui est arrivé à l'album. Hein. Il va être retiré des ventes et tout, donc ils allaient même le chercher dans le stock des libraires. Hein. » Et Pef a essayé de demander à l'insert de rééditer, enfin de... Voilà. Bon, après, ça n'a pas fonctionné, mais...
Ça n'aurait pas été un cadeau, hein.
Mais la colère de Pef, elle était sincère.
Ouais,
c'était vraiment...
Sympa. Ça m'a fait du bien.
Ouais. Ouais. Ouais.
Bon, messieurs...
Mais ça ne m'empêche pas de... Enfin, je vais reprendre les images.
Ouais. Oui.
Oui, et je refais des images et d'essayer de le republier. Avec,
donc pas d'autocensure, en fait, par rapport à ça. Ça t'a pas...
Ah bah, ça, je suis obligé de contourner certaines choses, quoi. Mais du coup, c'est ce qui est intéressant aussi, parfois, dans la censure, c'est que... Du coup, on est obligé de redoubler de créativité d'une certaine manière, d'invention pour d'humour aussi, éventuellement. Oui. Parce que juste pour le coup, j'en mets davantage, je crois, pour contourner les obstacles en question. Ouais. Ouais. Donc c'est, de ce point de vue-là, c'est intéressant.
Voilà.
En fait, je suis content, quoi.
Alors, on va terminer
et
sur
donc,
cette
pour terminer
note,
sur le
vas-y.
Plus beau des cadeaux, oui. Nous, si on en a 2 exemplaires, c'est des collecteurs. Maintenant, ça vaut combien?
sur Internet, j'ai vu des trucs. J'ai vu une fois un prix, mais c'était délirant, quoi. Un truc du genre 500 boules, quoi. 500 ouais. euros.
Ton livre?
Ouais. Mais enfin, bon, c'était peut-être exceptionnel, hein, je veux dire. Oui. Mais je l'ai vu, j'en suis pas revenu, quoi.
C'est vrai qu'en plus, c'est un livre qui est magnifique.
Oui.
Donc,
bah,
L'histoire est très belle.
L'histoire, elle est super simple.
Elle est très, très belle.
Les illustrations sont fantastiques. La partie documentaire qui est à la fin est très bien faite aussi.
Ouais, c'est ce qui nous a foutu dedans, d'ailleurs.
Ouais, vous voulez un petit peu nous raconter cette histoire, quand même, parce qu'on en parle, mais parce qu'on la connaît, mais...
C'est très simple. En fait, c'est un petit garçon qui s'appelle Ali qui habite au début du livre. On voit sa maison au début du livre, quasiment juste après la page de titre, si ce n'est déjà sur la page de titre. Je m'en souviens plus. Oui, juste après la page de titre. Et il doit se rendre à l'anniversaire de sa copine qui s'appelle Lila et qui habite, elle, qui vient de déménager, elle, à l'autre bout du livre, à la fin du livre. Donc il doit traverser, c'est tout simple, tout le livre. Et ce qui est montré dans les images, et non pas dit du tout dans l'histoire, c'est toutes les allusions à l'histoire de l'art, que va, enfin, toutes les, oui, la présence de l'art que va vivre, va croiser l'Italie au cours de ses pérégrinations, au fil des pages. Quoi. De page en page, on voit des hommages à l'histoire de l'art, ou à l'art contemporain, enfin... Il n'y fait aucune allusion à ça dans le texte, en fait. Lui, il poursuit son chemin autant que possible, vaille que vaille, jusqu'à arriver enfin, presque découragé, à retrouver sa copine. Ouais. Voilà, c'est tout.
Comme si l'art était toute la vie, qu'on ne s'en rendait pas compte du tout, en fait.
Oui, d'une certaine manière, bah, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que dit Filiou, un artiste conceptuel, qui disait que la vie est plus intéressante. Non, attendez, que je ne dise pas de bêtises. L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Oui, pas mal, quoi.
Ah oui. Est-ce que on termine, messieurs? Il y a des gens qui t'attendent, Lionel, je crois. Ouais. Pierre-Yves, il y a aussi des gens qui t'attendent.
Pas pour les mêmes raisons. Mais
voilà,
oui.
Moi, je voulais vous remercier très, très fort tous les deux. Lionel Le Néouani, qu'on va retrouver une partie des livres en fait, qu'on a cités. On va les faire remonter sur l'émission de Radio Radiant pour que les gens, en fait... s'ancre vraiment dans ton travail pour qu'on retrouve des traces.
Merci.
Et Pierre-Yves, t'as plus qu'à écrire un livre parce que oui. Voilà, c'est sur une table ronde d'auteurs. Je sais même pas pourquoi je t'ai invité en fait.
C'est vrai, je l'étonne un peu.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et merci à vous.
Le salon de Livre Jeunesse, c'était du 27 mars au 1er avril 2017. C'était à Trior. Et pour en savoir plus sur cet événement, vous pouvez toujours vous rendre sur leur site internet www.livre-jeunesse-chatillon.com.